quatrième top, il sera approximativement 18h sur l'antenne de Radio Campus Amiens 87.7, radiocampusamiens.fr et en DAB+. Et nous sommes toujours en direct du Chaudron. Donc c'est la scène qui fait partie de la résidence universitaire Le Castillon, pas très loin du campus de la Citadelle. Et voilà, nous sommes toujours avec une foule en délire. Voilà, et donc nous sommes en direct jusqu'à 20h et je laisse la parole à mon camarade Thomas qui a plein de gens dans le studio. Et donc tu vas nous annoncer ta fameuse surprise.
Oui, donc la surprise de 18h, nous avons des invités spéciaux pour 18h. Nous recevons le groupe Ouroub en la personne de François Jean Dazin et Bertrand Allôme.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc François Jean Dazin, vous êtes le leader, le guitariste, chanteur de Ouroub. Et Bertrand Allôme, vous êtes le bassiste.
C'est
donc
ça.
Bienvenue à Info Club Sandwich. Et donc pour commencer, Ouroub, c'est un groupe mythique qui existe depuis longtemps.
Qui existe depuis longtemps, c'est sûr.
Oui, je sais plus. Je sais pas s'il est encore mythique. Alors, le passé l'a dit, l'avenir le dira peut-être.
Alors justement, qu'est-ce que ce groupe a ou avait de mythique, par exemple ?
Alors ce groupe, il a eu de mythique qui l'a provoqué une espèce de Beatlemania il y a très longtemps. À un moment où à Amiens, il n'y avait quasiment que du rock. Et où la scène était assez terne. Et où Ouroub a incarné... l'aspiration d'une nouveauté. C'est-à-dire que notre musique est arrivée à un moment où les gens avaient envie de cette musique-là. Et il y a eu une aspiration phénoménale qui a marqué durablement les gens, assez durablement pour qu'on soit encore là, ici, à Radio Campus.
30 ans après.
Ouais, c'est ça, 3 ans après, ouais, voilà.
Et Ouroub, qu'est-ce que ça signifie, en fait
Alors... Ça n'a pas de signification établie. En revanche, on avait un camarade qui venait, qui s'appelait Youssef, qui était quand même assez, qui incarnait bien l'esprit qui a fait finalement notre succès, quoi. En tout cas, notre bonheur, et qui n'arrêtait pas de dire Ouroub, la lumière elle est forte là. Ouroub, ton pantalon il est rouge. Ouroub. Et on se demandait quel nom on allait choisir. Et puis en fait, à un moment, on s'est dit, mais Ouroub, c'est une bonne idée. Et tout le monde était d'accord. Donc on a dit, on s'appelle Ouroub. Et c'est devenu notre cri de ralliement. Même maintenant, quand on se dit, bon, allez, salut, à bientôt. Et Ouroub ! Voilà.
Et à l'époque, vous disiez que ça apportait un vent de nouveauté au milieu d'une scène rock. Mais comment vous vous êtes imposé, comment est venue l'idée de faire du reggae comme ça au milieu d'une scène rock, quand vous vous êtes retrouvé, comment tout ça s'est établi?
Je pense que en fait, il y a aussi les aspirations du moment. C'est-à-dire qu'effectivement, les années 80, c'était la new wave, c'était le rock, le punk aussi, qui était encore vivace. Et en même temps, fin des années 80, début 90, il y a l'avènement, entre guillemets, de tout ce qui concerne ce qu'on appelle la fusion. Avec des tas de groupes. En France, c'était FFF, des trucs dans ce goût-là. Aux États-Unis, c'était Fishbone, Living Color, etc. Donc, on mélangeait de plus en plus de choses. Et je pense que ce qui était la première énergie d'Ouroub, la première idée, c'était de faire ce mélange. On en discutait cet après-midi avec FJ. L'idée, c'était pas à la base de faire du reggae. L'idée, c'était de faire de la musique et puis de s'inspirer de tas de choses et qui étaient. C'était dans l'air du temps, j'ai envie de dire, de s'inspirer de toutes ces choses, d'aller de butiner à droite à gauche, de faire un peu ces mélanges. On était aussi à une époque où on parlait beaucoup de mélanges, de fusion, de tous ces termes revenaient très fréquemment dans la musique, mais aussi dans les rapports sociaux. Enfin, on était dans un moment qui est très différent de ce qu'on vit aujourd'hui, par exemple. Et donc, je pense que naturellement, on avait envie de faire un peu ces mélanges. Et moi, je me rappelle même des répètes d'Ouroub dans les années 90, parce qu'on n'a pas donné de date, mais Ouroub, ça commence en 93. Moi, j'arrive en 95, ça fera 30 ans cette année.
En 1893.
Oui, bien sûr.
Précis.
Ouais, ouais. Voilà.
Vous ne faites pas vos âges. Hein,
non, t'as vu.
Tu es bien gentil. Tu es bien gentil. Tu es bien sympathique, mon garçon. Bon, poursuivons, excusez-moi, je vous ai interrompu.
Oui, donc en fait, voilà, c'était un moment assez différent. Et je pense qu'on. Pour plein de choses, on ne se posait pas tellement la question du style, de la couleur, de tout ça, parce qu'on était dans un moment où tout était beaucoup plus ouvert, vaste, etc. Et effectivement, par la suite, il y a eu cette étiquette reggae. Mais bon, il y a une accointance naturelle pour tous les membres du groupe pour le reggae, hein, on ne va pas s'en cacher. Mais je pense que ce n'était pas le premier truc.
C'est-à-dire
je finis juste. Parce
non,
que
non, c'est à moi, comment... tais-toi.
Moi, je me rappelle de répète, donc il y a 30 ans, on répétait à Cité Carter, pas très loin d'ici. Et avec les musiciens qui étaient présents dans le groupe à ce moment-là, on parlait de tas de choses en musique. Avec Vincent, le batteur de l'époque, on était tous les deux des fans de jazz rock. Avec Pocus, le guitariste soliste, on était fans de blues et de jazz aussi. On partageait aussi ces trucs-là. Avec FG, on parlait beaucoup, ou avec Jaman à l'époque, on parlait beaucoup des gros standards de reggae. Moi, j'étais un gros fan de Lee Scratch Perry, par exemple. Donc c'était, là, je pouvais en parler, etc. Mais en fait, on avait toute cette ouverture, on pouvait aller piocher. Et je pense qu'on n'avait pas ce sentiment ni ce besoin d'étiquette au tout début, tout au moins.
On faisait la musique qu'on voulait, en fait, puisque l'époque précédente, l'époque de notre lointaine adolescence, était essentiellement, le décor musical, c'était du rock alternatif des années 80, qui était beaucoup moins sucré que celle qu'on veut nous laisser. Que celle vis-à-vis desquelles on est un peu nostalgique. Ici à Amiens, c'était un peu gris et dur et lourd. Et on avait juste envie de jouer d'autres trucs, quoi. Donc on jouait de la bossa, de la funk, et effectivement du reggae, parce que, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, il s'est produit, je pense, pour notre génération, ce que j'appelle une énergie potentielle. C'est-à-dire, tout d'un coup, en fait, le Marley est arrivé, on était petits. C'est quoi ce truc-là? Parce que cette invention-là, elle est phénoménale. Elle a d'ailleurs été une référence pour des tas de musiciens énormes, une référence importante. Et paf, ça s'est arrêté brutalement. Ça s'est arrêté en 81, pouf, il n'y a plus personne. Et je crois qu'on a été collectivement frustrés de ne plus pouvoir entendre ce truc, quoi, que ça n'avance pas. Et 10 ans se sont passés, et au moment où on était à peu près en mesure de jouer, parce qu'il faut rappeler quand même qu'à cette époque, on ne jouait pas... Les musiques actuelles n'étaient pas enseignées au conservatoire. Hein, accéder au conservatoire, ce n'était pas de toute façon pour la catégorie socio-professionnelle de pas mal de membres du groupe. Quoi qu'il en soit, au moment où les années 90 sont arrivées, au moment où en tout cas on a été en passe et en mesure de jouer notre musique, ben, on s'est dit ouais, putain, on va essayer, on va faire du reggae, on va voir et tout. Et on a essayé et ça a marché. Voilà. Et c'est ça a été un miracle, parce qu'on était dans une mouise. C'était la hesse, mon frère, je vais te dire un truc, tu vois.
Et quand vous avez créé le groupe, quand vous avez commencé à jouer ensemble, à faire vos répétitions, est-ce que il y avait cette volonté de durer aussi longtemps? Et l'évolution du groupe, que pouvez-vous nous dire sur l'évolution du groupe?
L'évolution du groupe. Alors, est-ce qu'on avait l'intention de durer aussi longtemps? Ça nous a jamais traversé. C'est lointain, mais quand t'as 20 ans, tu fais le truc qui est là pour te sauver tes miches, en vérité. Et on va devenir des stars. T'es malade. Jamais on a pensé un truc pareil. Quand c'est arrivé, on était sidérés. Moi, je suis pas sûr de comprendre encore ce qui s'est passé à l'époque. Et la deuxième partie de ta question, c'était
comment le groupe a évolué? Qu'est-ce qu'il en est de l'évolution du groupe actuellement?
Maintenant?
Alors, depuis,
c'est très différent là.
Bah déjà, faut comprendre que sur les 30, 31 ans maintenant d'Ouroub, c'est pas 31 ans continu. Il y a eu des phases.
On a pris le temps de faire des enfants.
Ouais, entre autres. Et puis voilà, il y a eu des moments où, pour des raisons. Faut dire qu'en 31 ans, déjà, on a perdu du monde. Il y a quand même on a perdu des éléments ultra importants du groupe. Jaman et Rito, c'est les premiers qui viennent à l'esprit. Donc forcément ça crée des vides et puis après il y a comme le rappelait FJ, on a il y a la vie la vie, la vraie vie, celle en dehors de la scène qui fait que Y a des temps forts. Après, tout le monde se disperse un peu parce que, effectivement, quand Ouroub se met en place, nous, on est tous. Pour certains, on est encore. Moi, je suis encore étudiant.
Bah, moi aussi.
Je sais que moi, au début, je fais 2 ans dans Ouroub, de 95 à 97. Ouais. Après, je pars pour poursuivre mes études tout à fait ailleurs. J'étais plus à Amiens. Bon, bah, à ce moment-là, il y a un autre bassiste qui me remplace, Xavier. Et puis voilà. Et après, le Ouroub, il y a une parenthèse à partir de 2000, par là.
Quand on commence à pondre, oui, le moment des premières pontes, il y a des gens qui rentrent au nid. Disons que l'évolution, il y a l'explosion initiale. Voilà, 93, 94, les gens se massent devant la Lune des Pirates. Ils grimpent par-dessus le toit pour pouvoir entrer. C'est un truc complètement dingue. Il y a les Gladiators qui viennent pour la première fois. Il faut s'imaginer une ville dans laquelle il n'y a jamais eu un seul artiste de reggae qui s'est approché à moins de 60 bornes, à moins de 100 bornes. Il y a les Gladiators qui arrivent, on fait la première partie, on a 22 ans, c'est un truc complètement fou. On est à Salouel, à la salle de l'Erc. C'est un délire. Il faut s'imaginer ça. Et puis on est en train de jouer au Babi en face, à un Turad qui n'est plus là. La salle de l'Erc, elle a disparu, mais c'est une salle des fêtes. On joue au Babi avec Albert Griffith, Gallimore Sutherland. On leur met une danse parce qu'ils sont pas bons au Babi en Jamaïque, apparemment. Et après, bon, ils mettent la revanche sur scène. On finit cul nu, il n'y a pas d'histoire. Non, on finit complètement. Oh, c'est dingue. L'année suivante, en 1995, on a Burning Spear au cirque. Alors, donc, il y a ce moment-là, un moment où ce qui se passe nous dépasse complètement. Et évidemment, à ce moment-là, on se dit pas, ah ben tiens, je pourrais faire ça toute ma vie, c'est bon, je vais faire que ça, t'es malade, évidemment. Ensuite, il y a un moment où on change de formation parce que c'est difficile, on est 17, donc c'est compliqué. On change de formation, on a une formation plus ramassée, c'est le moment où Bertrand arrive, jusqu'en 97. 97, il y a de nouveau un changement que Bertrand a évoqué. C'est le moment où on va avoir la formation qui a fait l'album d'Ouroub, qui a tourné dans pas mal de bagnoles de gens de nos âges, qui était assez cool, mais qui, à mon sens, n'exprime pas, ne contient pas l'essence de cette première énergie, justement. Et j'en fais mention parce que, donc après, oui, on s'arrête pour pondre. En 2013, je décide de refaire un seul concert, et de réunir tout le monde. Et contre toute attente, tout le monde revient, enfin beaucoup de gens reviennent, et on fait un concert à la Lune, un truc de malade. Et évidemment, on a envie de rejouer. Et là, donc, c'est le moment où c'est une quatrième époque. Mais moi, je suis à Marseille, et il se trouve que de toute façon, j'incarne, comme tu l'as présenté au début, j'incarne quand même beaucoup de groupes, désormais, par la force des choses. Et puis 2017, on essaye de refaire des trucs, mais ça marche à peu près. Je reviens à Amiens, j'étais à Marseille, je reviens à Amiens. Ça marche plus ou moins. On s'endort un peu. Et puis là, fin 2017, il y a Djaman qui meurt, surtout aussi. Donc on rejoue. Et là, j'en termine, t'inquiète pas. Rito, qui est vraiment le fondateur du groupe, mon frère, c'est vraiment mon ami depuis. Et Rito annonce à une répète, je suis content les gars, j'ai rien à mon poumon, c'est mon pancréas. Et là, s'il était le seul dans la salle à pas savoir que le pancréas, c'était ça veut dire Terminator est à ton cul, t'es mort, quoi. Et puis effectivement, Terminator, il l'a eu. En 2021, Rito disparaît et moi je me dis, ok, on fait de la musique tant qu'on est vivant. Et là, on est dans ce moment-là. C'est-à-dire, on fait de la musique tant qu'on est vivant.
Alors justement, on va en parler après. Une ressortie, une renaissance de Ouroub.
Exactement, donc, le premier morceau de cette époque, la première énergie.
High Meaning, une petite pause musicale, on revient après. Hide yourself from
some political pollution and spiritual starvation. Attack our spiritual scale to join Earth, see where we only see.
C'était le groupe Uroub qui est en notre compagnie dont nous écoutions le titre I'm Meaning. Voilà, ça va, j'ai pas fait de faute.
Oui, I'm Meaning, S, mais on I'm va meaning. S'en sortir, on s'en fout, franchement, c'est pas grave.
Voilà, alors les auditeurs, enfin plutôt les spectateurs, ont pu apprécier ton organe, parce que tu. Voilà, tu. tu chantais, tu faisais du playback. Tu chantais hors antenne avec ton organe.
Bref.
Qu'est-ce que tu veux dire exactement?
Bon, ça a été filmé, on vous le repassera.
Voilà, c'était filmé.
Il y a des preuves.
Vous pourrez revoir cette scène.
J'ai chanté, en fait, c'est ça. Pour les gens à la radio, j'ai chanté.
Vous pouvez revoir cette séquence sur les réseaux sociaux de Roub, voilà. Je présume.
On vous mettra ça.
Alors, c'est High Meanings, c'est le tout premier titre de Roub. Mais François-Jean Dazin, vous avez fait un travail particulier. Ce n'est pas qu'une simple ressortie. C'est plus que ça.
Alors ouais, c'est le premier morceau qui est sorti. Alors à l'époque, en cassette, c'était une démo. Puis les gens, ils disaient, waouh, c'est quoi ce truc-là? Il faut s'imaginer ce son-là dans un moment 1990, quoi. Tu vois le délire?
C'est le son qu'on entend au tout début du morceau. En fait, les premières secondes, c'est extrait de la cassette d'origine.
Ouais.
En fait. Après, on passe sur la version moderne, mais les 10-15 premières secondes, c'est la cassette.
Et donc, ça, c'est vraiment le truc où je me souviens qu'à Carter, il y a quelqu'un qui est passé, parce que Carter, ça s'est fondé d'une manière un peu... Il a fallu forcer un peu la main. Et dans ce moment, quelqu'un est passé et a dit « Qu'est-ce que vous faites là ? On s'est fait un peu griller parce qu'on était en train de mixer le truc en 12, quoi. » Et puis... Dame, elle a dit, mais c'est quoi ça? On est en train de mixer. Ah bon, ça se fait ici, ça? Bah ouais. Ah bon. Puis elle est partie, blanche comme un cul, sans comprendre ce qui se passait, quoi. Et donc, c'est en même temps le premier morceau que moi j'ai composé. Depuis, j'en ai composé des centaines de milliers. mais donc, ouais, voilà. Et moi, je voulais faire une restauration, comme le site, les restaurations sur TikTok, là, t'es là le soir et tout, puis tu regardes un truc, un coup de sableuse, t'enlèves la rouille et tout. Et c'était un peu l'idée, quoi. C'était un peu l'idée de reposer ce truc-là en même temps pour, en hommage à Rito, dont c'était l'esprit. Rito avait proposé d'ailleurs un moment quand j'avais retrouvé la cassette, parce que la cassette, on l'avait perdue, évidemment. Et puis on l'a numérisé, je l'ai communiqué aux autres musiciens, et Arito a dit, ce serait bien de faire un truc. On a tous dit oui, mais bon, Pancréa, donc on savait que ça allait pas, il n'y aurait pas de... On n'allait pas le refaire, et finalement, on l'a refait. Et ce morceau, il donne corps, il redonne corps à un esprit. Alors, c'est pas un esprit de « c'était mieux avant, je vais te dire quelque chose avant, c'était pas comme ça ». C'est juste le témoin, une espèce d'affiche, un décorum sonore d'un pas d'une époque, mais d'un lieu où on n'est pas raciste, où on vit plutôt bien, ça va. On a accès à la culture, on n'est pas en galère. Voilà. Et le truc, c'est pas que c'était mieux avant, c'est juste que c'est mieux de pas être raciste plutôt que d'être raciste. C'est ça que je veux dire, en fait. Je sais pas, ça paraît très, très littéral et un peu candide, puéril, mais...
Pourtant, tout à l'heure, quand vous parliez des prémices, fin, du début de Ouroub, vous évoquiez que ça s'inscrivait dans une époque où il y avait une grande ouverture de par les courants musicaux d'époque, la fusion. Et vous pensez que ça a changé maintenant en termes...
Moi, ouais. J'en sais rien.
Oui, moi, j'ai vraiment le sentiment. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai toujours essayé de comprendre, un peu ce qui s'était passé. Comment on avait justement basculé de ce moment voilà, très ouvert où on mélangeait tout le monde, on mélangeait les musiques. Enfin, encore une fois, je me répète un peu, mais ouais, y avait cet aspect-là. Et puis petit à petit, on le voit, c'est des discussions qu'on a eues plusieurs fois d'ailleurs avec FJ, que ça tient sur les années 90, puis après, il y a un moment où ça bascule. Alors c'est toujours difficile de trouver le moment où ça bascule. C'est vrai qu'en creusant, on voit que les premiers signes, les prémices, tout ça, c'est fin des années 90, où d'un seul coup, les styles musicaux, bah, chacun se remet un peu dans sa case. Et puis, même au niveau de la vie en société, bah, chacun bah, un peu se remet aussi un peu dans sa case, comme ça. Et puis, y a vraiment pour moi un truc qui est typique des années 90 qui disparaît tout à fait au début des années... Fin des années 90, début 2000. Voilà, après on a parlé de plein de choses, de repli identitaire, etc. Mais effectivement, c'est des choses qui naissent fin des années 90, début 2000. Et la musique, finalement, soit elle est un peu en avance là-dessus, soit elle accompagne, j'en sais rien. Mais du coup, on passe à autre chose.
Moi, je dis que j'en sais rien, mais en fait, si, j'ai vraiment quelque chose à dire là-dessus. Moi, je me souviens qu'on a changé de formation parce qu'on nous disait, mais vous faites du reggae, vous faites de la funk, vous faites de la bossa, vous faites quoi ? Ah non, je regrette, nous on a une ligne reggae, nous on a une ligne machin. Et donc je me souviens qu'il y avait tout une espèce de discours que j'appelle périmusical, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas nécessairement artistes, mais qui font un peu qu'on passe ou qu'on passe pas, quoi, qui lentement ont réclamé une étiquette. Et ça, c'était le signe de la minéralisation de style dans des cases, quoi, dans des groupes un peu hermétiques. Et il s'est trouvé qu'on nous a réclamé l'étiquette reggae. Donc, à un moment, il y a eu tout un truc reggae, Pierre-Paul Jacques, super, machin. Voilà. Et que maintenant que la chose s'est instituée, hein, qu'il y a une étiquette reggae, les gens qui font du reggae, on se fout de leur gueule. Ah non, tu es reggae, tu es Babylone, ta gueule. C'est de bon ton. C'est de bon ton. C'est même un snobisme apprécié, valorisant. Hein. Et on se rend difficilement compte que derrière ça, que cette attitude-là disqualifie certains styles de musique. Mais un style de musique, il a nécessairement une instance, c'est une occurrence politique. Et que derrière ce style de musique, il y a des gens qui se mélangent. Moi, je me souviens que j'ai fait des concerts devant des mémères, des jeunes, des rebeux, des noaches, des tout ce que tu veux. Donc voilà, et que tout le monde était ensemble. C'était il y a longtemps. Bon voilà. Mais en tout cas, je crois que c'est ce caractère syncrétique entre guillemets, disons, c'est-à-dire ce caractère hétéroclite, composite. Qui est disqualifié dans ce truc de Babylone, dégage. Et il se trouve que le reggae qu'on entend, la niche reggae, qui par ailleurs, Bertrand me l'a rappelé, est quand même la niche qui vend, la deuxième vendeuse de France, hein, c'est quand même les métalleux, c'est ceux qui vendent le plus, et derrière, c'est du reggae. C'est Babylone. Et le reggae en question est très, très... il est standardisé. C'est un reggae jamaïcain, dub plate, avec des DJ style Sizzla, voilà, Capleton. C'est un type même. Alors que bon, ce qu'on vient d'entendre, là, nous, c'est juste l'ensemble des influences qu'on a connues tous en boîte quand... Il se trouve qu'à l'école, on était entre noirs, rebeux, Céfrans, vietnamiens, bot people, et puis qu'à un moment, on s'est dit, c'est bon, l'affaire est réglée, quoi. C'est bon, maintenant, on est tous potes, on se connaît tous, on sait que Ben, Ramadan, c'est Ramadan, ça va. Le Tête, c'est cool. Pâques, ben, tant mieux. Noël, t'as plein de trucs. Super, j'ai fait ma communion, j'ai radio cassette. Vas-y, écoute du son. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. Par ailleurs, vous savez que le mouthfart est français.
Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de la surprise, parce que vous allez nous interpréter un morceau en live.
Non, non.
Mais très rapidement, très rapidement. Comment peut-on écouter Ouroub très très rapidement?
Ah bah Ouroub, il suffit de faire ouroub.com, O-U-R-O-U-B, voilà, .com. Alors bien sûr les morceaux, enfin tous les derniers morceaux, tout ce qu'on a ressorti depuis 2017, si je dis pas de bêtises, c'est disponible sur toutes les plateformes, sur Bandcamp, sur YouTube, voilà, sur le. Les canaux habituels, j'ai envie de dire.
Sur YouTube, il y a tous les, il y a les clips. Moi, je me fends le fion dans l'autre sens pour faire des clips qui soient cool, des trucs bien. Alors, il n'y en a que deux pour l'instant. Alors, on s'inscrit dans une démarche assez longue où bah, voilà, on va faire du contenu, mais pas du contenu tout le temps. Et sur YouTube, c'est cool. Hein, il y a voilà, les clips qu'on essaye de se démerder pour bien faire. Il y a la prod de Bertrand qui est un déchireur, sa mère.
Et on va vous laisser vous installer pour pouvoir.
Ça veut dire ferme ta gueule, ça, c'est ça, non?
Ça veut dire que le temps tourne. Donc, okay. Une petite brève en attendant que François-Jean Dazin et Bertrand Allôme s'installent. Mais de rien.
Alors, le temps que je retrouve mes brèves.
Ah, sinon, moi, j'en ai
si,
sous
si,
le nez.
Si,
hein.
Si, j'en ai aussi également. Alors, tout à l'heure, on parlait vite fait. De Ludovic Leleu, donc le photographe qui intervient régulièrement à la Lune des Pirates. J'en profite pour vous annoncer, enfin je fais un petit peu cette transition, pour vous annoncer une exposition qui aura lieu à la Lune des Pirates qui commence le 30 mars, qui s'appelle Dessiner le festival minuit avant la nuit. Donc il y a 9 dessinateurs et dessinatrices qui ont capturé des moments du festival amiénois sur 4 éditions de 2019 à 2024. À travers leur croquis, l'exposition révèle un kaléidoscope de regards malicieux et bienveillants sur les artistes, les festivaliers et les organisateurs du festival.
Donc maintenant, c'est Ouroub avec My Little Tune.
C'est un... Allô ? Allô ? Est-ce que vous entendez ? Ouais ? My Little Tune, donc un morceau de la même génération que High Meanings. De ce temps formidable où tout le monde était heureux. It's 16 and a winter. It's wearing night. A day without color is flying fast. A woman standing over me has discovered suddenly the time is life, and then my little tune. Coming through her and for the shiver she feels herself very, very much better. Osiko is worried, she seems to believe. Remember those moments which is to be great. But Sika is stopped down, just felt a presence. Just got to realize that love is a face. And my little tune coming through them and for the forever they be. No more, no more. Yeah. It's very, very late.
just that music is true. And I'm a little tune rude. Whoa, come back through earth and we sure should open, listen and read in anyone's heart. Anyone's heart. Oh, anyone's heart. Oh, anyone's heart. Anyone's open, listen and read in anyone's heart. Open, listen and read in anyone's heart.
Merci François Jean Dazin et Bertrand Allôme. C'était Ouroub avec My Little Tune et on applaudit bien fort. La foule est en liesse. C'est la folie au chaudron à la résidence du Castillon.